Tes poches sous les yeux, l'émission.
Eh bien voilà, on est en direct du festival au quart de tour, en direct aussi sur les ondes de Radio Béton 93.6. On a eu un faux départ, mais c'est normal, d'habitude l'émission a lieu à midi et là il est 11h, on sort du lit, on est un peu empâté parce qu'on a servi du vin jusqu'à 2h du matin, donc voilà, et puis le docteur m'a dit dites 37 si vous êtes en forme, et 37 pourquoi? Mais parce que c'est la 37e édition du festival au quart de tour et que c'est encore ce soir, donc là vous vous réveillez et puis vous êtes plein de bonnes résolutions et vous dites je vais aller sur la plaine de la Gloriette cet après-midi. Pas de bol, c'est complet. Donc, c'est vraiment la loose. Vous serez obligé de rester connecté au 93.6 pour écouter ce qui s'y passe. Mais bon, on ne va pas que parler du festival, bien que les bandes-son de ce direct y seront largement consacrées. Nous allons parler literature, littérature, bande dessinée, car c'est l'objet de Des poches sous les yeux, l'émission, en direct et puis exceptionnellement pour Au quart de tour depuis la Gloriette. Et c'est moi qui vais ouvrir le bal de cette séquence littéraire. Avec.
Qu'est-ce que tu vas nous raconter?
Je vais vous raconter Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun. Alors pourquoi Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun? Parce que le 30 mars dernier, Fabienne Yvain, la patronne de l'Oiseau Vigie, la top librairie de Saint Peter of the Body, conseillait à nos chers auditeurs la lecture justement de Fantaisie guerrière, le premier roman de Guillaume Lebrun paru chez Satellite, l'édition de poche de Christian Bourgois, éditeur. Alors, appliquant le vieil adage de ma chère mère, la confiance n'exclut pas le contrôle, je me suis livré à mon tour à la lecture de cette Fantaisie guerrière, de laquelle je dois dire je suis ressorti tout ébouriffé comme si je m'étais prêté à une bonne séance de headbanging, ce qui est particulièrement exceptionnel vu que je n'ai pas trop de cheveux et que dans ces conditions, me direz-vous, le headbanging n'a qu'un intérêt limité, sans compter que j'ai les cervicales particulièrement fragiles depuis ma dernière expédition hivernale à la montagne qui s'est terminée aux urgence après une rude chute de mon esprit que mon esprit égaré n'a gardé aucune trace. Heureusement, je me souviens encore de la lecture de Fantaisie guerrière dont je suis venu vous parler ce matin. Oui, car nous sommes encore le matin. Fantaisie guerrière est l'histoire revisitée de Jeanne d'Arc. Et cette histoire nous est contée par Yolande d'Aragon. Yo, pour les intimes, comme il est dit dans le roman. Constatant que sa fille Marie d'Anjou, qui s'était prise pour le comte de Ponthieu futur Charles VII, qui hélas n'a pas inventé l'eau tiède et ne fera donc pas le choix, pas le poids, face aux Anglais qui ont tendance à prendre leurs aises dans l'Hexagone, Yo, donc inspiré par une vision pour le moins stupéfiante, décide de réunir une quinzaine de jeunes filles pour les éduquer, les entraîner et en faire un régiment d'élite à même de bouter les Anglish hors du royaume. Yo les baptise toutes du même prénom, Jeanne. Seul leur numéro les distinguera les unes des autres. Jeanne, la 12e, est la seconde voix de ce roman. Elle est grande, elle est grosse, elle est sale, elle pue, elle préfère les femmes, mais c'est elle qui prendra la tête de cette escouade pour bouter les Anglais hors de France, comme on nous l'a raconté à l'école. Guillaume Lebrun transforme le symbole historique de Jeanne d'Arc en quelque chose de bien plus jouissif, dont les amateurs d'héroïque fantasy vont se délecter tant l'action et les scènes de bataille mènent monde réel et monde parallèle. J'avoue, moi, la fantasy, c'est pas comme d'autres que je connais bien, c'est pas trop ma came, mais ce qui m'a le plus emballé dans ce roman de Guillaume Lebrun, c'est le ton, c'est l'écriture, c'est révolutionnaire. Oui, car le ton est résolument décalé. Fantaisie guerrière est un roman rock. C'est pour ça qu'il a sa place en ce direct de la Gloriette, qui fait la part belle à la culture pop. Les deux premiers chapitres, d'ailleurs, s'appellent Sympathy for the Devil et Toxic. Et puis Jeanne, la 12e, écrit des poèmes qui ressemblent à s'y méprendre aux paroles des chansons de Jean-Jacques Goldman, revues à la sauce du français du 15e siècle. Bon, Jean-Jacques Goldman à Gloriette, me dire, bon, ça c'est une autre histoire. Bon, et l'écriture, alors, Guillaume Lebrun, pour son premier roman, ne recule devant aucun obstacle, aucune ambition. Comme il avait déjà désacralisé Jeanne d'Arc, le voilà-t-il pas, qu'il uchronise la langue française pour nous restituer son récit dans une sorte de vieux François, repimpé d'argot contemporain et d'anglicisme qui transforme chaque phrase en explosion linguistique. C'est génial. Et voici une petite lampée contée par la douce voix d'Odile pour conclure ma chronique.
Je m'appelle Jeanne, je suis guerrière, prophétesse, anciennement sainte, toujours riante, gabelante, ripaillante, bien buvante et bien baisante, issue de la compagnie des Haute-Gousses et diablement fierotte, harnacheuse de pimpante, apte à la chasse des gibiers de tous ordres et gourmette de mes humains. maîtresse des hallebardes, impératrice des espées, hardie à la lutte, dévorante à main nue, ennemie de la curaille d'abbaye, carnassière ultime, reine combattante ayant reçu la puissance de toutes celles qui m'ont précédée et qui me succéderont. Par le sang que je répands, sorcière de premier ordre, dernière survivante de l'assemblée, piratesse parmi les piratesses, druidesse parmi les druidesses, samouraï parmi les samouraïs, habile au trémouillage de la langue et à la sainte chope, dévoreuse de cochonailles, adextre du majeur tendu, espète anéantie des bullshiteux de toutes obédiences, bien au-dessus du lot genré, toujours hautement irrécupérable. Heureuse, vivante, et ça suffit bien pour l'instant.
Merci Odile. C'était donc Fantasy Guerrière de Guillaume Lebrun, collection satellite chez Christian Bourgois, éditeur. Je vous le recommande chaudement, comme Fabienne Yvain l'avait fait il y a 2 mois de cela. Alors, on va rester dans des affaires anglaises. Hein. Nous allons traverser la Manche et retrouver Jonathan Coe. C'est Nadia qui nous parle d'un de ses romans sur l'auto-boutage des Anglais d'Europe, d'ailleurs.
Tout à fait. Donc, je fais partie des gens qui aiment beaucoup la pertinence de Jonathan Coe. Dans le Royaume des Unis, il se fait l'écho des tensions qui ont traversé la société anglaise au cours du siècle dernier pour se concrétiser dans le Brexit. Jonathan Coe organise son récit à partir des grands événements qui ont marqué le Royaume-Uni, la victoire du 8 mai 1945, le couronnement de la reine, l'investiture du prince de Galles, son mariage avec Lady Diana... Les obsèques de Lady Di, enfin, etc. Autant de repères qui sont constitutifs de la société anglaise. Si vous êtes anglophobe ou anglophile, ce malicieux auteur vous donne matière à ajuster votre perception de nos voisins. Et pour les symboles, Jonathan Coe s'y entend, car il déroule son histoire dans une famille de la banlieue de Birmingham, très exactement à Bourneville, cité construite autour de l'entreprise Cadbury, celle des fameux biscuits au chocolat. Les Cadbury sont des Quakers. L'entreprise est familiale et paternaliste et a fait construire un ensemble de pavillons avec pelouse pour ses employés. C'est très british. Par cette belle journée du 8 mai, les hommes dérogent à la règle de tempérance pour se retrouver au pub. Les familles se réunissent pour le discours du roi et on discerne déjà que la royauté ne fait pas l'unanimité de tous. Cependant, c'est une Angleterre victorieuse et puissante que l'on fête et c'est ce jour-là que Marie rencontre celui qui deviendra son époux. Cette fierté anglaise est réactivée à chaque événement ponctuant la vie de la famille royale, mais aussi les marques emblématiques de l'industrie britannique et les films de James Bond. Le parcours des 3 enfants de Marie dessine des cheminements qui tantôt traduisent les évolutions de la société, tantôt des résistances par rapport au modèle ancien, et surtout des tentatives pour préserver l'idée qu'on s'est toujours faite de son pays. Jonathan Coe nous donne un peu la mesure des rapports de domination dans le royaume, la revendication des uns, le déni des autres, mais il met surtout la focale sur le quotidien. Car ici comme ailleurs, la ville n'est pas la campagne, histoire de dire que Londres n'est pas le reflet de l'Angleterre profonde. On comprend alors que l'implication dans l'Europe pouvait être perçue comme une atteinte à l'image du royaume. L'illustration de ces difficultés est totalement savoureuse. Il est question de la barre chocolatée Cadbury Dairy Milk, dont la recette est liée aux pénuries pendant la guerre et est bien trop grasse pour la Commission européenne et va offrir matière à un certain B, député de son état et grand baratineur, de quoi animer les antagonistes.
À la grande mèche blonde.
Tout à fait. En fait, tout est savoureux dans ce livre, j'allais dire comme tous les livres de Jonathan Coe.
Et puis comme les barres Cadbury en plus.
Pas forcément là. Qui mieux qu'un Anglais pour raconter les petits travers de ses congénères et de ses hommes politiques. Et puis, il y a le récit de la famille de Marie qui réserve bien des surprises. Bref, un bonheur de lecture. En cette veille d'élections européennes,
absolument.
On se dit que demain matin, on va voter.
Oui, alors que les Anglais, non.
Les Anglais, non. Donc, c'est le Royaume des Unis de Jonathan Coe chez Folio.
Merci beaucoup, Nadia. On va traverser l'Atlantique d'un seul pas. Et c'est Rémix qui va nous parler d'Altamont, une bande dessinée parue chez Glénat et dont les auteurs sont Eric Hanna et Charlis Adlard.
Alors, D'abord, vous allez peut-être avoir un choc ce matin parce que vous êtes habitué à des chroniques de ma part qui sont un peu au cordeau. Je veux dire, c'est un peu des références, de la rigueur, enfin bref, un travail rédactionnel exceptionnel.
Et nous sommes plusieurs à c'est toujours bien d'avoir dans une équipe un lièvre qui court devant et après à lequel nous combattons. Et on rêve d'atteindre ne serait-ce que ta cheville.
La gauche. Alors, en cette, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est la 38e édition. Et donc, on va parler de cette fameuse BD.
Altamont,
oui. Moi, j'ai eu l'impression de un espèce de malaise. J'aime beaucoup cette BD, mais un peu, tu vois, pas un mensonge, pas une duperie, mais un peu une erreur d'étiquetage. Parce que Altamont, tu te dis Rolling Stone.
Bien sûr.
Tu te dis François Bourg, ça c'est les chroniques.
Un excellent podcast.
Ah, bah, m'en parlez pas, mon brave monsieur. Mais. Là, bah non. Non, effectivement, c'est la vie d'une bande de potes qui prennent des acides, qui écoutent du rock'n'roll, qui sont fous de musique. Et c'est aussi, c'est plutôt une vision d'une déchéance, d'une jeunesse, la fin du flower power.
Ah oui.
Ça, c'est pas facile à dire quand même.
Non, hein. Mais tu l'as bien dit.
Mais je suis content. Et là, t'as une vision, c'est une BD qui est vraiment cinématographique. Alors, il faut savoir que le dessinateur a fait la série Walking Dead. C'est lui qui a repris toute cette BD.
D'accord.
Donc, on a quelque chose de vraiment... de bien découper, t'as des scènes sur les prises de drogue et tout ça qui sont hallucinantes. T'as presque l'impression de prendre de la drogue sans en prendre, le côté pratique.
C'est magique.
C'est fou. Et là, t'as toute cette histoire de potes qui voient des concerts, qui vont à Altamont. C'est comme ça qu'on dit.
Oui, c'est bien dit.
Et il faut savoir que la sécu était faite par des Hells Angels.
Yes.
Et qui était payée à coups de bière et dont la technique était pour arranger un peu la sécurité, c'était la batte de baseball et le couteau.
Ce sont des outils...
C'est un peu rudimentaire, mais ce qui a donné le célèbre drame d'Altamont.
Oui, enfin maintenant, c'est la flashball et
oui, mais
et
bon, là, avant, la batte de baseball avait un côté un peu radical, on va dire.
C'est ça. Mais c'était en produit naturel.
Voilà, c'était du bois, c'était bio. Donc, on a toute cette vision de l'Amérique désenchantée, la fin de cette époque. C'est surtout ça qui est intéressant. Et puis, en plus, il y a une bande musicale qui suit la BD, que tu peux prendre sur un célèbre Spotify machin ou un truc comme ça. Et là, tu te retrouves vraiment dans un film.
Immersif, c'est immersif.
Complètement immersif. C'est super bien fait.
Mais il y a quand même tromperie sur la marchandise.
Il y a un peu, tu vois, je crois pas que le nom des Rolling Stones apparaisse dans la BD, par exemple.
C'est pas vrai.
Si, monsieur. Par contre, l'ambiance du concert, le désarroi des gens, la qualité de la musique est là.
Les Rolling Stones sont là, mais en creux.
Mais en vachement creux quand même. En revanche, c'est super bien fait, c'est vraiment quelque chose à lire.
Bon, moi, tu le conseilles cette bande dessinée.
Ah bah moi je l'ai lu pendant le festival parce que exceptionnellement, j'avais pas trop préparé de chronique, on m'a dit il faut que tu fasses une chronique. Je l'ai lu le soir après les concerts, peu le matin.
Mais quel talent.
Et ça m'a complètement j'étais happé et je tiens à remercier un de mes dealers préférés, monsieur Morin de BD Lire, qui m'a conseillé cette BD. Qui est vraiment, je veux dire...
Et pour un livre, AP Pascal, c'est quand même fantastique.
Et ben voilà. Hein.
Donc, tu nous rappelles le titre de cette magnifique bande dessinée parue chez Glénat ?
Non, oui, c'est Altamont. Et c'est Charlie Adlard et puis Eric Hanna.
Merci beaucoup, Pascal. On va faire une première pause musicale. C'est Moon Backstage qui seront tout à l'heure à la clinique du street art à 12h30. Et on écoute leur titre, King Crumpets. De retour. Et ben voilà, de retour sur en direct de la Gloriette, et c'est Des Poches Sous les Yeux, l'émission. Et donc on écoutait Moon Backstage, qui seront dans un peu plus d'une heure à la clinique du Street Art, dans les célèbres Apéroc, parce que Radio Béton est au quart de tour. Ce n'est pas que le festival de la Gloriette, c'est aussi tous les jours des concerts à proximité de chez vous. Donc vous pouvez rester en centre-ville, surtout pour ceux qui n'ont pas pu prendre de billets pour ce soir, puisque c'est complet. Et donc Odile, puisque tu t'imposes dans la discussion que j'avais avec les auditeurs, et ils étaient particulièrement attentifs, je le sais, ce matin, malgré l'heure matinale, tu vas nous parler de Noyade de Céline Spireur.
Spireur, oui, paru chez Pocket. Alors c'est un très très court roman de 222 pages que j'ai trouvé dans la caisse de Des Poches Sous les Yeux. Et c'est une autrice que je ne connaissais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné le bouquin, enfin, c'est-à-dire j'ai lu la quatrième de couverture et j'ai vu deux petits commentaires incisifs, un roman impressionnant et un petit bijou. Donc je me suis dit, ça, c'est bijou à lire. Bon, après, ça venait de Elle et de RTL, donc c'est pas trop mes références littéraires, sauf si le livre devient jetable comme la fast fashion ou si les grosses têtes veulent rivaliser avec le jury du prix Goncourt. Mais bon, je me suis dit, allez, soyons flexi-lecteurs, pas extrémistes ni snobs. Et je me suis mise à lire, donc, Noyade.
Ça a été un exercice pour toi, cette souplesse intellectuelle, non?
C'est vrai, ça ne m'arrive pas souvent, mais bon, là, j'ai carrément, j'ai plongé, donc, oui, parce que tout se passe donc dans une piscine, puisque le titre de ce roman est, je vous le rappelle, Noyade. Alors, je ne divulgâche rien en disant que oui, il est question de quoi? D'une noyade. Où ça? Dans une belle piscine. Et donc, rentrons dans le sujet, dans cette piscine. Et donc, c'est une noyade qui se passe dans une piscine. Où ça? Une piscine qui va de pair avec une très très belle maison chicos, dans laquelle est rassemblée toute une famille américaine, dans un quartier cossu, à l'occasion d'une belle fête de famille. Donc, comme on est aux États-Unis, ça se passe pas autour d'un poulet au vin jaune avec des morilles, mais autour d'un
barbecue.
Oui, gagné. Et donc voilà, ce fait divers qui est forcément dramatique pour cette famille va être l'occasion pour la romancière de décrire chaque personnage présent lors de cette fête avec ses interactions passées et présentes avec chacun des membres de la famille. Donc cette famille qui sur la photo incarnerait la réussite sociale va sous nos yeux, pas vraiment ébahis, hein, c'était couru d'avance, se fissurer. Comme c'est une famille... Une fois gommés les sourires factices des albums de famille, il y a des sourires qui se transforment en rictus. Bref, une famille avec ses bonheurs, ses secrets honteux et ses drames. Normal, je vous dis, c'est rien qu'une famille. Donc tous les types de femmes sont représentées. Vous avez la méchante et non moins charismatique maman qui ne laisse rien passer de ses sentiments. Elle a une carapace en titane. Après, vous avez la fille, la gnangnan, qui veut toujours que tout le monde soit content. Elle veut bien faire. Elle règle toutes les tensions en cuisinant et en gavant les membres de la famille. Il y a la baby doll qui n'arrête pas de jouer du cul et des seins pour exister. Est-ce que ça cacherait pas un drame, hein, docteur Freud?
Un vide.
Peut-être. Et chez les mecs, il y a le gentil, le mari super doux, le lâche qui préfère faire semblant d'être sourd et l'ignoble pervers inconséquent. Bref, on a une belle ribambelle de personnages.
T'arrêtes de nous regarder, s'il te plaît, quand tu décris ces personnages?
Non, te sens pas du tout visé. Et donc, c'est bien simple. Dès le début, on a l'impression de lire une série américaine avec Nicole Kidman, adaptée d'un roman de l'Australienne Liane Moriarty. Et c'est idem avec de nombreux flashbacks. En fait, c'est comme dans cette série. Je pourrais même vous donner le nom des acteurs. C'est vraiment, ça marche, mais c'est cousu de fil blanc. Et c'est efficace, hein. C'est parfait pour un binge reading un dimanche de farniente.
Farniente.
En ce qui me concerne, moi, c'est un plaisir coupable. Alors, je l'ai vite lu, mais aussi un peu vite oublié. Sauf, pour la scène d'ouverture. Et là, c'est vraiment incroyable. Parce que la scène d'ouverture, c'est la fameuse noyade. Ce qui prouve que le bachelor américain de Céline Spireur, un bachelor en écriture scénaristique fait à New York, a été bien amorti, on peut dire, parce que cette intro est une intro d'anthologie. Alors, on a droit à la description idyllique du bord de la piscine, l'été, donc un dimanche. Alors, imaginez-vous, vous avez les bruits qui sont réconfortants, c'est-à-dire les femmes à la cuisine, il y a des bruits de vaisselle, vous avez les mecs autour du barbecue, ça, il y a des grosses voix, et puis ils rigolent.
Hey, t'as vu ma saucisse?
C'est bien. Ensuite, vous avez les criquets qui font du bruit au bord de la piscine. En dehors de ça, il y a aussi les odeurs. Donc, les odeurs de nourriture,
bien sûr, les odeurs de lavande qui bruissent dans le vent, et aussi un petit peu l'odeur de chlore, forcément. Mais tout ça, ce qui semble vraiment extraordinaire, génial, paradisiaque, se transforme en un cauchemar parce que on comprend que ce qu'on est en train de lire, en fait, ce sont les impressions du petit garçon qui est en train de se noyer. Et donc ça, franchement, mais c'est un tour de force. Pour moi, c'est un régal. Donc rien que pour ces deux premières pages d'introduction, il faut lire « Noyade » de Célie Spierer, paru chez Pocket. Alors, comme je la connaissais pas, j'ai essayé de glaner des infos sur Internet. Alors, il y a rien. Je sais, elle est suisse, mais elle n'a pas d'âge. Elle fait des scénars, mais on ne sait pas ce que c'est. Elle est assistante de production, mais ça ne veut rien dire.
Bref, c'est un pseudo, quoi.
Bah, je pense, oui. Alors, son premier roman, c'est Le fil rompu, et Noyade est son deuxième roman.
Mais merci voilà. Beaucoup, Odile, pour cette restitution. Je t'ai amené une bouteille d'eau, car je suis plutôt dans la description des personnages. Le mec hyper sympa.
Ah oui, c'est toi, le mari gentil.
Exactement.
Okay, merci
voilà,
beaucoup.
Pour soigner ta gorge. Et on va passer la parole à Olivier, un autre lièvre après lequel on court et qu'on ne rattrapera jamais.
Comme tu y vas. C'est pas pour me vanter, mais j'avoue que j'aime bien lire au water, hein. Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve que c'est un endroit qui, à défaut d'être particulièrement confortable, est plutôt tranquillo, c'est donc idéal pour lire à tête reposée. Enfin, tranquillo, c'est vite dit, parce que si la veille, vous avez dîné, par exemple, dans un restaurant coréen avec un ami, ou une amie d'ailleurs, ou de manière plus globale, toute personne de votre entourage qui refuse de se laisser enfermer dans un système d'assignation de genre strictement binaire, dont le caractère oppressif découle directement de son aspect arbitrairement exclusif, hein, et que vous avez pris une salade pas mushim, hein, parce que vous trouviez que le nom était marrant, et d'ailleurs quand le serveur est venu prendre la commande, vous lui avez dit « je vais prendre une salade pas mushim, mais presque ». Et là, vous avez bien vu que ça ne le faisait pas super poiler le serveur, peut-être parce qu'il l'a déjà entendu mille fois le calembour miteux, balancé par des clients qui ont grandi devant les sketchs de Michel Leeb, et donc une conscience lointaine de ce qu'il peut contenir insidieusement de mépris de classe et de racisme ordinaire. Ou peut-être parce qu'il ne l'a pas compris, ou peut-être encore parce qu'il ne l'a simplement pas trouvé si drôle que ça. Quoi qu'il en soit, il est resté de marbre le serveur, quasi impassible, limite irrité, la mine du type qui s'entraîne comme un forcené dans l'espoir incertain d'être le prochain champion olympique du « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Donc pour détendre l'atmosphère, vous lui avez demandé comme ça si c'était très puissant comme piment le gochugaru. Vu qu'il y a du gochugaru dans la salade pamushim. Et le serveur vous a dit un tout petit peu, en vous montrant son pouce et son index très très rapprochés l'un de l'autre, histoire de matérialiser la petitesse évoquée au cas où vous seriez trop crétin pour comprendre ce que signifie l'expression « un tout petit peu ». Alors que bon, c'est vrai que vous ne donnez pas toujours l'impression d'être un intellectuel de haute volée, mais un tout petit peu, vous arrivez quand même à saisir le concept dans ses grandes lignes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous auriez dû penser que c'est le genre d'appréciation qui tombe directement sous le coup des limites du relativisme subjectif. Un tout petit peu, ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas fixé le cadre du référentiel dans lequel est placé le jugement. Et donc effectivement, il est apparu que votre salade pas mushim était un tout petit peu très piquante au moment de la mise en bouche, un tout petit peu super piquante lors de la descente œsophagienne et un tout petit peu giga piquante lors du brassage stomacal. Et bon, à ce stade, vous avez pensé que ça allait se calmer, que les sucs gastriques allaient lui tabasser sa gueule au gochugaru, décidément. Eh bien, pas du tout. Le lendemain matin, vous aviez carrément l'impression qu'une armée de hérissons hystériques coiffés de casques à pointe avait décidé de descendre votre intestin grêle en bobsleigh. Alors, vous avez cavalé au water et découvert, avec un étonnement comme qui dirait stupéfié, que même au moment de la vidange, le gochugaru n'avait rien perdu de sa superbe en matière d'ultra-piquance. À ce niveau-là, ça forcerait presque le respect, mais en fait, non. Ça se contente de vous carboniser un tout petit peu beaucoup le fondement. Donc, j'en étais à peu près là au moment où je me suis mis à feuilleter « I need more ». Diggy Pop.
Ah, nous y voilà.
Exactement, on y arrive. I need more, ça veut dire j'ai besoin de plus. Et alors, peut-être que parce que personnellement, à cet instant, j'aurais plutôt eu besoin d'un tout petit peu moins, si vous voyez ce que je veux dire, pendant toute la lecture du bouquin, qui est une sorte d'autobiographie façon souvenir à bâton rompu, je me suis demandé, mais de quoi que c'est-il qu'il en a besoin de plus, Iggy ? Parce que franchement, il en a déjà pas mal, et on pourrait même dire qu'à certains moments, il aurait même tendance à en avoir un peu trop. Iggy Pop, c'est l'incarnation du trop. Des abus, des excès, de la pulvérisation permanente et systématique des limites du raisonnable. Le genre de mec dont on se dit que si on faisait la moitié du millième de ce qu'il a fait, on serait déjà ratatiné comme une merde de caniche nain sur laquelle un éléphant bigleux aurait entrepris d'entamer un numéro de claquette. Et pourtant jamais, au grand jamais, il ne s'est retrouvé coincé au GOG à vidanger à flux tendu une ingestion de gochugaru mal négociée. Et vous savez pourquoi ?
Non.
Je vais vous le dire, ben parce qu'il a la rock'n'roll attitude, Iggy. Ce mélange de détachement hâbleur et de coolitude de Maboule qui permet de traverser cette chaîne de vie avec pour tout bagage la nonchalance du rêveur éveillé et l'élégance du désespoir. La rock'n'roll attitude, c'est affirmer quand tout le monde prétend autour de toi que la situation est grave mais pas désespérée, qu'elle est bien désespérée, mais que ce n'est pas grave. La rock'n'roll attitude, c'est être capable de transformer n'importe quel commentaire dénué d'intérêt en génial aphorisme, rien qu'en concluant chacune de tes répliques d'un impas vide. Oh yeah! Genre, hey man, double dose de gochugaru dans ma salade, pas michou, mais presque.
Pas mouchim.
Oh yeah, pas mouchim, mais presque. Oh yeah, la rock'n'roll attitude, tu l'as ou tu ne l'as pas. Iggy, il l'a.
Il l'a.
Magnifique. C'est pour ça que quand j'étais jeune, mon rêve était d'être comme lui, comme Iggy. Il me suffisait de lancer Raw Power ou Search and Destroy, de me foutre torse-poil, d'empoigner une raquette de tennis en guise de télécaster et de me trémousser avec la grâce approximative d'un éléphant bigleux pour m'y croire un tout petit peu. Et tant que je n'avais pas l'infortune de croiser mon reflet dans un miroir, j'y étais presque. Je m'y voyais déjà en haut de l'affiche. Je m'y voyais déjà signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. Et partout dans la rue, je voulais qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elle m'admire, qu'elle me tue et au final qu'elle soit prise d'une irrépressible envie de s'arracher ma vertu.
Olivier,
je voulais
Olivier,
être comme Iggy,
Olivier,
tout pareil,
Olivier.
Une sorte de modèle ou d'idole. Ça commence comme ça et après, pendant toute sa vie, on continue de penser qu'on a besoin d'un chef. Enfin bref. Et donc tout ça est remonté d'un coup pendant que je parcourais I Need More d'Iggy Pop. Et pour tout vous dire, c'est bien la seule chose qui remontait parce que... Enfin bon, je ne vais pas insister là-dessus. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais Iggy, dans ce bouquin... Et il s'est quand même livré à un certain nombre de facéties farfelues au cours de sa vie, y compris sur scène. Et comme il raconte parfois assez drôlement dans I Need More, s'il y a une chose qu'il n'a jamais faite en public, c'est déféquer dans son pantalon. Contrairement à un certain prétendant à des fonctions électives qui, si j'en crois les rumeurs colportées par les réseaux sociaux, aurait eu un petit souci d'étanchéité sur un banc de l'université dans ses jeunesses pas si lointaines. Et bon, dans l'absolu, pourquoi pas, ça peut arriver à tout le monde, hein, surtout aux gens qui ont moins de 4 ans ou plus de 85, ce qui n'est pas le cas du malheureux dont je me garderai bien de prononcer le nom ici, étant donné que la campagne électorale est close.
Qu'est-ce que c'est ça, les rumeurs ?
Je te laisse chercher sur les réseaux sociaux qui sont bien renseignés à ce sujet. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut raisonnablement faire confiance à un type qui prétend en remontrer à la terre entière en matière de fermeté, alors qu'il est manifestement incapable de prévenir la submersion migratoire de son slip par des matières, il faut bien le dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fermes. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, là où ça sent la merde, ça sent l'être. Et je suis presque sûr que vous ajouterez qu'il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Alors parfait, oui, très bien, excellente intervention, merci beaucoup. Il n'est jamais inutile de citer Antonin Artaud, qui, dans son genre, avait lui aussi, d'une certaine façon, la rock'n'roll attitude, même si je n'ai pas souvenir de l'avoir un jour entendu conclure une de ses phrases par un laconique « Oh yeah ». Alors je sais bien que toutes ces histoires nous entraînent un tout petit peu loin d'Iggy Pop.
Un tout petit peu.
Et de I Need More, et de la littérature en général, dont je n'oublie pas tout à fait quel est le sujet de cette émission. Mais puisque l'occasion m'est donnée de partager avec le plus grand nombre quelques affligeants lieux communs qui tiennent plus du café du commerce que de la philosophie politique, je voudrais en profiter pour dire que si, comme moi, vous en avez un tout petit peu plein le derche de devoir vous résigner depuis des lustres lorsqu'on daigne vous demander de donner votre avis un tout petit peu éclairé de citoyen un tout petit peu responsable, à faire un tout petit peu barrage à des gros cons qui, non contents d'être un tout petit peu des gros cons, trouvent encore le moyen d'être un tout petit peu des gros cons fachos, je ne peux que vous inviter, si d'aventure et dans un avenir tout proche, vous aviez à en remettre une couche, à penser à Antonin Artaud et à la salade Pamouchim et à Iggy Pop. Parce que dans le fond, si je peux me permettre l'expression, je suis presque sûr que comme Iggy, vous aussi, vous en voulez plus. Ne serait-ce qu'un tout petit peu plus. Mais pas un tout petit peu plus de haine, ni un tout petit peu plus d'aigreur, et pas un tout petit peu plus de rejet de l'autre non plus, sous prétexte qu'il ne serait pas soi-disant de la bonne couleur, ou du bon genre, ou de la bonne classe. Et encore moins un tout petit peu plus de ce repli peureux sur soi-même que tente de vous imposer des chefs autoproclamés à la con et qui ne vous mènera jamais à rien d'autre au final qu'à un potentiel et incontrôlable débourrage dans votre slibar. I Need More d'Iggy Pop se trouve aux éditions du Serpent à Plumes dans la collection Motif.
Ah Olivier, non seulement il éclaire les chemins de la littérature, mais il éclaire nos consciences politiques pourtant dans l'ombre. Pour nous remettre de tout ça, une pause musicale avec Underground, c'est Warda. Désolé, Underground, on est obligé de vous chanter parce que nous avons un rendez-vous, plutôt Pascal a rendez-vous avec Arnaud Le Gouefec. Et je te laisse la parole, Pascal. Non, je dois continuer parce que le numéro de l'abonné n'est plus attribué. Non, donc il va discuter avec Arnaud Le Gouefec, c'est le moment de l'interview, pour sa bande dessinée Vivre libre ou mourir. Bien sûr, il s'agira de punk et de rock alternatif en France entre les années 81 et 89. À toi, Pascal.
Eh ben merci Vincent. Donc je suis bien au téléphone avec Arnaud Le Gouefec. Bonjour. Bonjour Arnaud, est-ce que tu nous entends?
Et vous?
Très bien. Bon. Alors, tu viens de sortir une bande dessinée, un roman graphique comme on dit aujourd'hui, Vivre libre ou mourir, avec Nicolas Moog au dessin, une histoire du punk et du rock alternatif français des années 80-89. Arnaud, tu es né en 74. On est d'accord?
Absolument.
74, ça fait quand même un petit peu jeune pour avoir une grande expérience de ce mouvement.
Bah justement, on raconte avec Nicolas au début de la BD, justement, on explique un peu d'où on parle, parce que nous, quand on a découvert ce mouvement, on était au collège, et en plus en milieu rural en ce qui me concerne. Donc j'étais vraiment hyper loin de toute forme de révolution musicale. Et puis on commence par là, en avouant aussi au départ notre sentiment d'être passé à côté de ce mouvement à l'époque, mais de l'avoir vu par la bande un peu sur le côté, quoi, voir le ces cassettes de concertos pour détraquer qui s'échangent dans la cour du collège, voir Viva Bertaga et le live à l'Olympia, les Berrues qui remplissent l'Olympia 3 soirs de suite en 89. Là, on est à l'époque, j'étais en première, par exemple. Et puis ensuite, voir la Mano Negra exploser au niveau mondial quand j'étais en terminale, quoi. En gros, c'est ça. Et à partir de là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va raconter? Est-ce qu'on va juste raconter ce qu'on n'a pas vécu? Ou est-ce que, alors donc, nous, on a pris le parti pris d'aller interroger les gens qui avaient vécu tout ça, quoi. Donc, c'est un roman graphique, comme on dit, une bande dessinée qui est chorale, c'est-à-dire qui distribue la parole à une petite trentaine de protagonistes, quoi, qui ont vécu, qui ont joué dans les groupes, qui ont vécu toute cette aventure-là.
C'était une nécessité pour toi de faire justement cet aspect choral, plutôt que, parce que tu aurais pu aussi faire des interviews et raconter ensuite ta sauce.
Ouais, j'ai, en fait, c'est en discutant avec les gens, en les interviewant, en découvrant aussi les mots qu'ils utilisent, la manière dont ils parlent. Il y a une manière de parler, une manière de raconter qui je trouvais dommage de rajouter un filtre supplémentaire. Donc l'idée, c'est plutôt qu'on les entende et puis que directement on ait l'information à la source.
Tu utilises le noir et blanc, est-ce que c'est pour faire croire aux jeunes d'aujourd'hui que la couleur n'avait pas encore été inventée?
Ah, c'est une bonne idée ça, tiens. C'est un parti pris qu'on a développé avec Nicolas depuis qu'on fait des bandes dessinées sur la musique, parce qu'en fait on a On en a fait d'autres avant sur des grandes figures de l'underground. On a fait une BD d'ailleurs qui s'appelle Underground, oui. et on a toujours eu ce parti pris noir et blanc. Enfin, c'est surtout ça vient surtout de Nicolas, hein, c'est son esthétique. Et je pense que c'est directement hérité de Crumb, qui est un peu notre maître à tous en matière de bande dessinée sur la musique. Ça vient des comics américains, ça vient de l'underground américain. Quoi.
Ce punk rock alternatif français des débuts des années 80, c'est une musique que tu as pris à la fin, entre guillemets, c'est une musique que tu écoutes encore ?
Oui, il y a certains groupes que j'écoute encore. Hein. J'écoute toujours Verveille Noire, par exemple, ça m'arrive. J'aime bien les Vampas. Mais après, je suis tombé vraiment dans l'écoute du rock'n'roll, donc les Vampas, c'était totalement connecté à tout ça. J'adore Metal Urbain. J'écoute souvent, voilà. Donc il y a des et puis je me suis replongé avec joie dans tout le reste.
Hein. Mais, ça dit quoi de l'histoire de France cette période 80-89 là?
Bah, ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement en fait, c'est la deuxième vague du punk français. Il y a eu une première vague juste avant 81 sous Giscard, et 80-89, c'est une deuxième génération de punk qui vont muter donc vers le rock alternatif, et ça coïncide étrangement avec d'une part l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81 et les trois derniers concerts des Béru qu'on peut considérer comme étant le chant du cygne de la scène. Ça se passe le soir même de la chute du mur de Berlin, donc il y a une espèce de parallèle étrange, et finalement pas si étrange que ça, entre mouvement et l'histoire de la gauche, des espoirs de la gauche au pouvoir, quoi.
Et tu donnes aussi la parole aux femmes dans ce livre.
Bah, c'est une réflexion qu'on a avec Nicolas depuis le début qu'on fait des BD sur la musique. On s'est rendu compte que ça remonte à il y a longtemps. Hein. On s'est rendu compte qu'on parlait souvent de mecs, en fait, et on s'est rendu compte que on était aussi on répercutait finalement sans se rendre compte des préjugés qui fait qu'on a toujours plutôt tendance à donner la parole aux garçons. Et donc on a mis un terme à ce préjugé une fois qu'on l'a eu repéré. Et on a toujours fait attention à distribuer la parole de manière le plus paritaire possible. Et quand on a commencé Vivre Libre ou Mourir, bah, ça nous a paru une évidence, et on n'a pas eu besoin de chercher beaucoup pour rencontrer vite un certain nombre de figures féminines clés qui sont ultra importantes, à commencer par les danseuses des Béru, les Titi, à commencer par la chanteuse de Lucrette Milk, etc., etc.
Mais c'était quand même un milieu, quand même, un peu bourrin, hein, avec des mâles bruyants.
C'était un milieu, alors bourrin, ça dépend des groupes.
Ça dépend des groupes, je parle pas des Béru, hein, mais.
Oui, bien sûr, oui, il y avait des figures très, très bourrins, c'est certain, et d'autres beaucoup moins, des figures plus androgynes, des figures, c'est pouvoir, quand je discutais avec Laurent Béru, justement, le guitariste de Berruyer Noir, la manière dont lui, il a toujours été dégoûté et écœuré par la représentation du mal en général, et c'est tout ce qu'il s'est construit en réaction à ça. Et justement, il disait que le punk, c'était un mouvement vachement androgyne dans l'esprit, mais qui parfois avait eu tendance à muter vers un truc un peu viriliste, parfois, ou un peu bourrin, justement. Et c'était pas forcément l'ADN de départ. Mais effectivement, c'est surtout il y a eu beaucoup de figures masculines, mais en se donnant un peu la peine de chercher, on se rend compte que y a des tas de filles qui ont vécu aussi tout ça, et il fallait leur donner la parole, parce que sinon ça n'a pas de sens.
Ton roman s'appelle donc Vivre Libre ou Mourir, mais finalement mourir, quoi, parce que soit les groupes se sont rattrapés par le business, soit ils sont autodissous.
Bah, en fait, je suis pas persuadé qu'on puisse en tirer cette conclusion là, parce que, alors, c'est vrai qu'il y a une fin à la scène, parce que il y a un moment aussi où il y a un point de bascule, hein, les Béru arrêtent parce qu'ils peuvent plus aller plus loin, ils sont arrivés à un tel degré de notoriété qu'il faudrait qu'ils mutent, qu'ils se professionnalisent, qu'ils fassent un certain nombre de compromis pour pouvoir continuer, et ils veulent pas. Et c'est le moment où des groupes comme Mano Negra, qui sont des groupes qui viennent des squats et qui viennent du même endroit, on va dire, eux font point de bascule et se professionnalisent, non seulement se professionnalisent, mais se deviennent une industrie musicale à part entière. Donc il y a un moment, il y a un point de bascule. Alors il y a des gens qui regrettent ce moment, d'autres pour qui l'histoire commence là, on va dire, mais je pense que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, tous les gens que j'ai interrogés, et là, c'est sans exception, quasi sans exception, tous sont toujours en train de faire des choses. Et ils sont toujours en train de... Soit les groupes continuent, soit ils ont changé de nom, mais ils sont toujours sur scène. Les Ludwig sont toujours sur scène. le Speed de OTH, il est toujours sur scène avec son projet de plutôt autour des chants de marins. Nina Childress, la chanteuse de Lucrette Mix, est devenue une plasticienne de renommée internationale. Laurent Berru, il tourne avec les Ramoneurs de Menhir, etc., etc. Et en fait, j'ai été frappé par le fait que l'esprit qui les animait, qui était en gros d'aller de l'avant, eh ben, il est toujours là, en fait. Et ils vont toujours de l'avant. La seule chose qui a peut-être changé, c'est que la lumière médiatique est moins focalisée sur eux.
Il y a quand même des groupes dont on pourrait reconnaître une certaine filiation avec ce mouvement. On avait jeudi Dalbéton sur les scènes du Festival au Caire. Hier, on avait vu l'Assassine. Ouais. C'est des groupes qui sont, c'est pas, il n'y a pas de filiation directe, mais en tout cas, il y a une espèce de d'inspiration et de mouvement qui le partagent.
Ouais, je pense que de toute façon, il s'est passé quelque chose, on va dire, l'écho de ce qui s'est passé à cette époque-là continue de résonner. Ne serait-ce que parce que ça a posé comme standard aussi pour les suivants que c'était une bonne chose à faire de créer son propre label, c'était une bonne chose à faire de se débrouiller un peu tout seul, c'était une bonne chose à faire de pas forcément se compromettre. Et quelque part, c'est eux qui ont posé ce standard-là. Et donc ça continue, évidemment, je pense, à inspirer pas mal de groupes, et pas que dans le punk, d'ailleurs.
T'as eu des réactions post-parution des interviewés, des personnes dessinées?
Bah oui, c'est quelque chose dont j'avais un peu peur, parce que j'avais pas envie de les décevoir, et je voulais être sûr que...
Qu'ils fassent pas une descente.
Pardon?
Qu'ils fassent pas une descente.
Ouais, non, c'était pas peur dans ce sens-là, j'ai surtout peur de la décevoir, mais j'ai fait attention. Enfin, on a fait attention avec Nicolas quand on a fait la bande dessinée, à les associer. C'est-à-dire, c'est pas juste les interviewer et puis au revoir. Je leur ai envoyé les pages de scénario pour leur dire ce que je leur faisais dire, et après je leur ai envoyé les planches de BD. Donc à tous les moments ils ont pu rectifier, modifier parce qu'ils avaient pas envie de revendiquer comme étant leurs propos dans mon dessiné qui ensuite va être diffusé. Et j'ai eu que des bons retours, et ça j'en suis super content, et Nicolas et moi on en est super content. J'ai eu que des retours élogieux de leur part, et le sentiment qu'une certaine éthique a été respectée dans la méthode, quoi.
Eh bien, merci. D'ailleurs, t'as le bonjour de Marsu qui était avec nous hier parce qu'il voulait rencontrer les Vulves Assassines. Donc, donc on a parlé de ton interview de ce midi et il te salue.
Eh ben, je le salue aussi. C'est un super mec. Ouais. Oui.
Tout à fait. Il est à moitié tourangeau, c'est pour ça que il traîne souvent.
Exact. Tout à voilà. Fait, exact. Donc, c'est vrai.
Donc, Vivre libre ou mourir, hein, de Arnaud Le Guéflec et Nicolas Moog, une BD à mettre entre toutes les mains d'urgence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. You're the man with the reptile eyes. Seductive alien. Always seem to be in disguise. Isolation drove you to change your shape. You don't drink the wine, you eat the grape. Now, now, Ziggy Ziggy, you're really out of space. But Ziggy Ziggy, when you create a space behind it. Fell on the world, a cosmic accident. That's why you always twisted and twirled. The human condition never felt right to you. You fight the form like heroes do. Now, now, Ziggy Ziggy, you're really out of space. But Ziggy Ziggy, what do you create? Thank you.
Eh bien, c'était Cousine Like Shit qui seront à la plaine de la Gloriette, au quart de tour, à 20h. Ils ouvriront le bal de cette dernière soirée ensoleillée. Et on va passer la parole à Malo. À Malo qui va nous parler des années préférées, des années de New Wave.
Alors, les années New Wave, c'est ce que j'avais prévu de faire. Et en fin de compte, c'est pas ce que je vais faire. Là... Vous avez fait que les chroniques sur de la vraie musique, hein, du rock'n'roll. Moi, je vais vous parler d'un groupe, un petit groupe qui n'est pas très connu, U2, qui a sorti un bouquin qui parle de ses 40 chansons principales et il nous explique un petit peu la genèse de chacune de ces chansons. En gros, on se retrouve avec une biographie de U2 et particulièrement de Bono au travers de ses musiques. Comment dire ? J'ai pas vraiment accroché. U2, j'aimais bien les débuts de U2 et puis je me rends compte au fur et à mesure que plus ça vieillit et moins ça devient intéressant pour moi. Ils ont démarré dans la banlieue de Dublin et petite anecdote, ils avaient leurs meilleurs amis, ils s'appelaient Garve et compagnie et ont créé après un petit groupe qui s'appelle les Virgin Prunes. Un vrai groupe de rock'n'roll. Ce qui m'a gêné, c'est que, bon, sont catho à mort, ils ont failli arrêter le groupe pour entrer dans une secte, et ils sont encore aujourd'hui catho à mort. Bon, ça, on va dire que c'est presque leur problème, et ça me pose toujours un problème, ce sujet-là. Mais même dans leurs chansons, par exemple, si on prend Bloody Sunday, qui est quand même un moment particulièrement important, c'est l'attaque de la police anglaise sur les nationalistes irlandais. Ben, il les défend même pas. En fait, pour moi, c'est un morceau, c'est un hymne. Ça a toujours été un hymne pour la défense de l'Irlande, et non. Et non, en fait, c'est pas ça. Il a juste voulu faire une chanson sur un sujet, mais sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, c'est pas un livre qui, pour moi, était un moment unique. Par contre, il y a quand même plus de 900 pages d'écriture sur le groupe et sur leur musique. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire gagner le livre aux personnes à la personne qui sera intéressée, qui aura envie de lire toute la vie et toute l'histoire de Bono et de U2. Bien sûr, il faut quand même qu'il y ait un petit jeu. En Irlande, il y avait deux groupes particulièrement intéressants, les Virgin Prunes et puis Stiff Little Fingers. Les autres groupes sont moins intéressants, on va dire. D'accord ? Et donc, Bono et The Edge, qui habitaient tous les deux dans le même quartier, étaient amis d'enfance avec un des deux groupes. Donc, pour gagner le bouquin, ce que je vous propose, c'est de nous dire qui étaient le groupe qui a été ami d'enfance avec Bono et The Edge.
Et bien, ils doivent le dire comment ?
Comme ils veulent. Soit ils viennent à la radio sur le festival, soit ils t'appellent. Soit ils appellent la radio, soit vous appelez la radio, soit vous venez directement sur le site du festival. Il y a la radio qui est installée sur le site et le livre est à disposition pour celui qui aura la bonne réponse.
Eh bien, très bien. Qu'est-ce que tu nous proposes, Vincent ?
Moi, je propose que Malo garde le micro parce qu'il avait aussi envie de chroniquer un super bouquin de J.D. Beauvallet sur la New Wave.
Ouais, tout à fait. En fait, j'avais prévu de parler d'un deuxième livre, c'est Les années New Wave, écrit par Jean-Daniel Beauvallet. Pourquoi Jean-Daniel Beauvallet ? D'abord, c'est quelqu'un qui est né à Tours. Hein. Il a fait ses premières armes sur RMT, Radio Monte Carlo,
Radio Mégatour.
J'y ai arrivé. Radio Mégatour. Et en fait, on se croisait régulièrement en ville. Eux faisaient de la pop. Nous, on faisait plus, on était plus rock'n'roll, eux plus pop. On voit ce que ça a tourné. Il est rédacteur en chef des Inrecuptibles. Nous, on a continué bon an mal an sur Radio Béton. On a les uns comme les autres des parcours qui sont aussi intéressants et qui nous plaisent l'un comme l'autre de la même manière. Il nous a sorti un petit recueil de groupes qui l'ont marqué pendant les années 80. Beaucoup de pop, beaucoup de choses super intéressantes, avec un petit résumé à chaque fois des groupes et intercalé au milieu des interviews qu'il a pu réaliser avec pas mal d'artistes, que ce soit avec Joy Division, avec Suzy and the Banshees ou les Clash. Enfin, il a rencontré au travers de sa Des Inrock tous les groupes qui ont pu exister depuis les années 80 Et c'est quand même une, il a une culture musicale qui est, qu'on est tous loin d'avoir. Donc, il tient bien son sujet. Et même s'il y a de la pop, c'est un livre que je peux, ne peux que vous conseiller de lire. Nos années New Wave, de Jean-Daniel Beauvallet. Allez-y, à fond la caisse.
Merci, merci beaucoup Malo. On va enchaîner avec ce pourquoi vous êtes tous sur les ondes actuellement. Le sommet de la créativité culturelle de Radio Béton, c'est la Bourboule Parano, le feuilleton radiophonique.
Vous connaissez la Bourboule ? Eh ben vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule Parano, le feuilleton made in béton.
Alerte. Pour apprécier l'épisode précédent, il faut petit a être taré, petit b être né en 1950 et quelques, petit c être sourd, petit d être red dingue du groupe Magma à l'origine du genre musical baptisé Zeul. Et oui, Chicken le Prez et la patronne sont toujours à Issoudun. Ah, apparemment, on y est très bien. Faudrait penser à installer un Club Med sur les quais de la gare. En plus, il y a déjà des animations à la con avec un duo Henri et Stella, qui reprennent la compagnie créole en Zeul, accompagnée d'un cul du Kazoo ultra harmonique. Et mais oui. Vous n'imaginez même pas ce qu'il m'en coûte de dire des inepties pareilles. C'est pas parce que je suis une voix pure, sans corps, que je n'ai pas conscience de ce qu'on m'oblige à dire. Oh, je souffre. Ah, si, je souffre. Allez, en avant pour l'épisode 9. J'espère qu'il sera bien, car là, je suis à bout. Je vais bientôt craquer. Sur le quai de la gare d'Issoudun.
Ferme-la. C'est pas gentil, ça, ferme-la.
Ouais, mais je crois qu'elle est un peu énervée avec tous ces contretemps.
Je crois surtout qu'elle a un putain de caractère.
Alors ça, tu peux le dire. Plutôt du genre impéteux.
Impé-quoi ?
Impéteux. Fougueux, bouillant, un caractère de chien, quoi.
Ah oui, c'est ça. Mode pitbull, quoi.
Oui, enfin non, faut pas pousser non plus.
Rottweiler ?
Non plus.
Doberman ?
Non, je dirais plutôt bulldog.
Bulldog ? Le petit truc tout fripé qui bave partout ?
C'est un peu caricatural.
Tu compares la patronne à un bulldog ?
Non, mais on parle de son caractère.
Tu la compares à un pauvre clébard tout moche ?
Ah, alors non, c'est pas moche un bulldog. Un petit bulldog français. Alors au premier abord, c'est un peu menaçant, mais mignon quand même, tu vois. Il te fout des jetons quand il grogne et montre les crocs. Mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de t'y attacher. Parce qu'il a une super bonne bouille. Tu as envie de lui lancer la baballe et de lui gratouiller son petit bidou. Guili, guili, guili.
Oh, 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 quelqu'un est amoureux.
Quoi ?
Tu kiffes la patronne.
Que, moi ? La patronne, ouais.
Ah, le délire ! Tu la kiffes vraiment ? Carrément, et tu voudrais tellement lui lancer la baballe.
Mais pas du tout, t'es con, toi.
Et lui gratouiller son petit bidou.
Mais...
Guili, 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 guili.
Mais vas-y, ferme ta gueule.
Tu as kiffé à mort.
Je te dis que non.
Kiff.
Arrête, putain.
Tu kiffes la patronne, tu kiffes
non,
la patronne.
Non, je la kiffe pas.
Putain, mais c'est pas possible. On vous entend brailler à 100 mètres. Qu'est-ce que vous avez encore ?
C'est le prêtre, il kiffe.
Ah, ta gueule.
Mais il kiffe quoi ?
Personne, enfin rien.
Bon, bref. En attendant, je n'ai pas trouvé d'infos. Hein. La gare est complètement vide.
Ah, je te l'avais dit.
Bah du coup, on sait pas quand est-ce que passe le prochain train.
Jamais.
Pardon ?
J'ai dit jamais.
Excusez-moi, mais vous êtes qui ?
Le chef de gare ?
Mais non, pas du tout. Vous ne me reconnaissez pas ?
Eh non, on devrait.
Bah je ne sais pas. Le costume, la queue fourchue, les cornes.
Vous allez à un bal masqué ?
Mais non, enfin. C'est vous qui avez invoqué les ténèbres.
Nous ?
Oui, vous.
Je n'ai pas invoqué les ténèbres. Et toi, t'as invoqué les ténèbres ?
Ah non, je crois pas, non.
Je ne sais même pas ce que ça veut dire invoquer.
Putain, à tous les coups, c'est les deux cons, là, avec leur casou de merde.
Mais vous êtes qui, à la fin ?
Le plus souvent, on m'appelle Méphistophélès. Ah !
Oh le con, Méphisto les fesses.
Non, Félès, pas les fesses, Méphisto Félès.
Putain la vache, le prénom de merde.
Mais t'es con, Chicken. Tu vois pas que ce type, c'est le diable.
Quoi le diable? Monsieur le diable? Méphistophélès, le diable? Ça craint, là, hein. T'as dû en chier un max à l'école, toi, hein.
Bon, vous arrêtez de vous foutre de ma gueule.
Non, mais c'est vrai, hein, t'as sûrement un deuxième prénom ou un surnom, genre Fifi ou Toto.
Ça
ou...
suffit.
Arrête, Chicken, tu vas finir par le vexer.
Bon, et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur le diable?
Vous m'avez fait venir, ce ne sera pas pour rien.
D'accord, mais encore?
Il me faut une arme.
Ah ouais, carrément.
Lequel d'entre vous va venir en enfer?
Bah, nous, ça nous arrangerait plutôt, je sais pas, on pourrait pas aller à la Bourboule, par exemple.
Ah ouais, c'est pas mal, ça. Et Fifi, tu veux pas nous faire apparaître le Poudlard Express, des fois?
Chicken, le Poudlard Express ne va pas à la Bourboule.
Qu'est-ce t'en sais, toi? Tu l'as déjà pris?
Non, il va à Poudlard, d'où son nom.
Peut-être qu'il fait des arrêts, avant le terminus.
À la Bourboule?
Eh, pourquoi pas?
Ah ouais, genre, King Cross, Saint-Pierre-des-Corps, la Bourboule, Poudlard.
Avec un changement soudain.
Ça va, je ne vous dérange pas trop.
Et oh, toi, tu te détends, Toto, hein. Pète
bon,
un coup.
Alors toi, tu m'as saoulé.
Putain, le con, il a fait disparaître Chicken.
Bah non. Regarde juste, il l'a transformé. Bah, regarde là, il est perché sur le lampadaire.
Ça va, Chicken?
La Bourboule parano. Le feuilleton, made in béton.
Qu'est-ce qu'il est bien, ce feuilleton? Qu'est-ce qu'il est bien? Mais oui, et que va devenir le gallinacé, hein? Eh ben, vous le saurez à l'émission prochaine pour le 10e épisode de La Bourboule Parano. Alors, l'émission prochaine, c'est quand? Eh ben, c'est au mois de juin. Au mois de juin, vous êtes gâtés, vous avez deux émissions, car nous serons à nouveau ensemble le 29 juin en direct normalement des Temps Sauvages. On était déjà intervenu une première fois. On a le plaisir d'y retourner. Donc, la nouvelle librairie de l'avenue Grammont, au 82 précisément, ça sera donc le 29 juin à midi, voilà. Et c'est ainsi que nous allons conclure cette magnifique émission matutinale en direct de la plaine de la Gloriette à l'occasion du festival Au Quart de Tour. Un grand merci à tous les chroniqueurs qui se sont levés spécialement tôt après une courte nuit. On resignale à nos auditeurs que s'ils veulent gagner Surrender, 40 chansons, une histoire de Bono que Malo n'a pas aimé, mais il n'a pas très bon goût. Donc n'hésitez pas, vous qui avez du goût, à vous signaler à la radio sur la plaine de la Gloriette ou en appelant. J'ai pas le numéro, mais si vous êtes motivé, vous serez trouvé. Voilà. Et donc il est pour vous dédicacé, non pas par Bono, mais par Malo. Voilà. On se quitte là-dessus. Donc voilà, vous allez dans vos librairies, dans vos bibliothèques, où vous voulez, mais vous lisez. À très bientôt. Salut à tous.
Des poches sous les yeux, l'émission. Ça